I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On a dit aux enfants très clairement que nous allions nous séparer. Comment assumer de partir avec cette culpabilité de faire souffrir mes enfants ? La seule chose qu'on pouvait, c'est consoler, rassurer.
L'enfant, lui, il va plutôt avoir l'impression que c'est lui qu'on sépare en deux.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Bonjour Fabienne.
Bonjour Mathilde.
Je vous en prie, installez.
Merci.
Alors Fabienne, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je viens vous parler de ma séparation avec mon ex-conjoint qui s'est passé il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans. Mmh. Voilà. Et puis, comment ça s'est passé avec les enfants? J'ai 3 enfants qui ont aujourd'hui 15 ans, 13 ans et 9 ans.
Donc, ils avaient quel âge au moment
donc,
de la séparation?
Au moment de la séparation, y en a, donc, l'aîné avait 9 ans, le deuxième 7 ans et la troisième 2 ans. Mmh. Donc, toute petite.
Du coup, comment, avec votre ex-conjoint, comment vous vous êtes organisée pour l'annoncer à vos enfants ?
Alors, déjà, on s'est mis d'accord, nous, entre nous, pour savoir comment on allait fonctionner. Et puis, pour leur annoncer, on a fait une réunion de famille pour expliquer, prendre le temps, avoir les conditions pour qu'ils soient, eux, à l'écoute. De ce qu'on avait à dire, pas qu'il y en ait un qui soit en train de jouer et l'autre écouter. Voilà. Donc, on s'est vraiment posé dans le salon et on leur a dit, on a à vous parler, on a des choses à vous dire. La petite dernière était là aussi. Même si il n'y avait pas de communication orale avec elle qui était fluide puisqu'elle parlait très peu. Elle disait quelques mots, mais voilà. Et donc, on leur a annoncé, on ne s'est pas étendu sur les raisons, mais on a dit aux enfants très clairement que nous allions nous séparer et que nous n'allions plus vivre sous le même toit, que papa et maman avaient décidé ensemble, et ça c'est important, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois, cette question. Donc nous avions décidé
cette question, c'est-à-dire
sur le fait qui a décidé d'eux. Voilà, on a bien insisté sur le fait que c'était une décision prise à deux et que nous allions donc moi déménager, avoir un autre lieu d'habitation et que avec leur papa ils resteraient dans la maison.
Donc si je comprends bien, quand vous l'avez dit à vos enfants, vous aviez déjà tout organisé avec votre ex-conjoint. En tout cas, vous saviez
le plan d'action. Comment ça allait se passer, qui partait géographiquement en tout cas, et aussi comment on allait s'organiser, on le savait déjà. On avait déjà communiqué là-dessus, échangé, on s'était mis d'accord aussi, mm-hmm. parce qu'il fallait trouver quelque chose qui nous allait à tous les deux, sachant qu'on avait quand même des enfants jeunes et une très jeune.
Mm-hmm.
Voilà, parce qu'on est en garde alternée, mais une garde alternée un peu particulière, qu'on avait décidé justement à cause de la jeunesse de notre dernière. C'est une garde partagée étalée sur la semaine, en demi-semaine. Les enfants sont avec leur papa en début de semaine,
mm-hmm.
À partir du dimanche jusqu'au mercredi après-midi. Et moi, je prends le relais du mercredi après-midi jusqu'au samedi ou dimanche en fonction des semaines.
Mm.
C'était pour nous, au départ, une façon de diminuer le temps de séparation, que ce soit avec leur papa ou avec leur maman. Sachant que la dernière était très proche de moi et le papa ne se voyait pas non plus passer toute une semaine sans ses enfants. Et l'organisation a fait, au niveau matériel, là, purement, que c'était possible de s'organiser comme ça.
Mmh.
Donc, on a trouvé que c'était bien et pour les parents et pour les enfants.
Mmh.
En tout cas, dans un premier temps.
Pour revenir au moment d'annonce, alors, vous nous avez dit que vous avez expliqué les choses clairement, posément, que vous avez réuni toute la famille.
Oui.
Quelles ont été les réactions de chacun de vos enfants?
Alors, mon aîné a compris tout de suite les enjeux. Mmh. C'est-à-dire, voilà, papa et maman ne seront plus ensemble. Donc, il a pleuré. Tout de suite, il a exprimé ses sentiments. Il a pleuré, la tristesse, la colère aussi. Moi, je ne veux pas que vous vous sépariez. Le deuxième a réagi de manière plus... voilà, il est proche de son aîné, il a moins de 2 ans d'écart et je pense qu'il savait pas trop comment se positionner et qu'il a pleuré, mais plus, je pense, en réaction de la réaction du premier, en fait.
Mm.
Je pense qu'il a mis du temps à réaliser voilà ce qui se passait, qu'est-ce qu'il allait se passer vraiment, en fait.
Mm.
Et la dernière, évidemment, on n'a pas vraiment vu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction physique, ni... voilà. Après, il y en a eu dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été géographiquement séparés, là, on a vu... moi, j'ai vu, en tout cas, une modification de son comportement.
Qu'est-ce qui est apparu chez elle?
Alors, moi, je l'ai trouvée beaucoup plus détendue, beaucoup plus souriante dans les émotions positives. C'était... c'est comme si voilà, il y avait eu un déclencheur de quelque chose. Après, je sais pas si peut-être c'est moi qui projetais quelque chose de négatif et que d'un seul coup, comme je me sentais peut-être plus ouverte, plus libérée, j'ai transmis ça à mon enfant,
mm-hmm.
peut-être. Ou alors, elle sentait la tension du couple et qu'il y avait plus cette tension à partir du moment où on était séparés géographiquement.
Mmh.
Voilà.
Et chez vos garçons, du coup, est-ce que alors, dans le temps, il y a eu voilà, une évolution de ces réactions?
Alors, l'aîné a essayé de faire tout pour retarder le moment où ça arriverait.
Mmh.
Donc, il nous a demandé de lui fixer un objectif, un temps pour se projeter, je pense. Donc, du coup, on a dit, bon, bah voilà. Son anniversaire a arrivé, ou l'anniversaire, non, c'était l'anniversaire du second. On a dit, bon, voilà, on va laisser passer l'anniversaire du second. Et à cette date-là, on commencera à, moi, faire des recherches pour pouvoir trouver un appartement et petit à petit partir de la maison familiale. Et après, il y a eu un petit accident, donc il a commencé à négocier en disant, moi, tant que ma cicatrisation n'est pas finie, là, il est tombé dans les escaliers. Donc, il s'est servi de ça en disant « Oui, mais tant que je suis pas rétablie, j'aimerais que vous restiez ensemble. » C'est un petit chantage affectif, très mignon. Mais bon, voilà, on a été stricts. On leur a dit « Non, là, on a décidé, on était d'accord au point de départ que c'était l'anniversaire d'un tel qu'on passerait ensemble, puis ensuite on entamerait des démarches. Et c'est ce qui va se passer.
Mm.
On ne vous laisse pas le choix. »
Comment vous avez, en tant que mère, comment vous avez vécu ce moment de l'annonce où d'ailleurs votre aîné voilà, a exprimé de la tristesse? Comment vous avez vécu ça?
Beaucoup de culpabilité.
Mm-hmm.
Beaucoup, beaucoup. Avant de leur annoncer, c'est
une des choses qui pesait le plus sur moi, c'est-à-dire comment assumer de partir avec cette culpabilité de faire souffrir mes enfants, de leur imposer quelque chose qui, de les faire subir ça. C'était assez dur à porter, en fait. Ne pas savoir vraiment quoi faire, la seule chose qu'on pouvait, c'est consoler, rassurer, mais on n'a pas de solution en vrai. On est démunis parce que on ne sait pas comment le porter pour que qu'il aille mieux, pour qu'ils comprennent aussi, parce que c'est très compliqué pour eux de comprendre ce qui se passe et les enjeux pour un couple adulte de la séparation. La culpabilité est démunie.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été partagé avec votre ex-conjoint ?
Oui. Ouais. Il serait bien placé pour le dire lui-même, mais de son côté comme du mien, c'était pas du tout ce qu'on avait envisagé au départ, une séparation, voilà. Donc oui, ça lui tient à cœur d'être à l'écoute, de et je pense que lui aussi, il s'est senti complètement démuni face à cette colère, cette tristesse des enfants.
Est-ce qu'elle a duré dans le temps, la tristesse ou la colère exprimée par vos aînés ?
Pas trop, en fait. Pas trop, non. À partir du moment où les règles ont été établies, qu'on a été séparés géographiquement, donc le papa dans sa maison et moi dans la mienne, finalement, les choses se sont mises en place assez naturellement. Et en fait, je pense qu'ils ont compris que, en fait, finalement, ça changeait pas énormément de choses au quotidien, parce qu'on a fait en sorte que beaucoup de choses restent, qu'on ne modifie pas leur cadre de vie. Et finalement, ils se sont sentis bien assez rapidement, et dans la relation avec l'un et dans la relation avec l'autre.
Combien de temps il s'est passé entre ce moment d'annonce et puis le moment effectivement où vous avez eu un autre lieu de vie ?
À peu près 2 mois. Ce qui est assez bizarre pour les enfants, c'est que une fois que l'annonce a été passée, il y a des moments où ça revient, où il y a des questions. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que tu as trouvé une autre maison ? Est-ce que tu vas partir ? Est-ce qu'on va partir en même temps que toi ? Mais ça reste très ponctuel, en fait. La vie reprend son cours presque, sauf à des petits moments où il y a des prises de conscience, où les enfants posent ces petites questions comme ça. Ça sort de nulle part, presque. Donc, on sent que c'est là, mais ça flotte un peu dans l'air. J'ai pas eu de crise de larmes à nouveau, par exemple. Sur le moment, il a exprimé, mon aîné. Mais après, plus.
Oui, dans ce que vous dites, j'entends quelque chose de vraiment progressif.
Tout à fait.
Voilà, cette période transitoire où il y a eu quand même ce moment un peu de chantage, d'envie, que les choses soient un peu différentes de ce que vous étiez en train d'annoncer, ce que vous veniez d'annoncer. Et puis, une fois que les choses étaient faites, finalement, qu'il y a eu quelque chose, et notamment, vous disiez pour votre dernière, qu'il y a eu un apaisement quand même.
Oui. Après, évidemment, il y a quand même des émotions qui se sont matérialisées plus tard. On a suivi l'évolution. Par exemple, mon aîné, il a eu tendance à faire des crises de somnambulisme. On a pris ça quand même assez au sérieux et on lui a demandé s'il voulait aller voir un psychologue. Parce que très vite, pour d'autres raisons, le second a été consulté un psychologue. Et il nous a dit non. On a dit, ok, pour l'instant, on voit comment ça se passe, mais on va quand même t'emmener voir un sophrologue pour que tu arrives à te détendre, peut-être améliorer ces crises de somnambulisme et... Après, sur le suivi, peut-être aussi que ça a aidé pour mes deux enfants. L'un est allé voir donc un psychologue, l'autre un sophrologue.
Vous dites bien l'attention que vous avez eue pour chacun de vos enfants, leurs besoins pour les aider à traverser ce moment de vie. Est-ce que vous avez eu aussi besoin de vous faire accompagner ou peut-être avant d'annoncer aux enfants avec votre ex-conjoint ?
Avant et pendant. Et après, une fois qu'on a été séparés, on a arrêté. On a été voir un psychologue, un psychothérapeute de couple qui nous a aidé déjà à prendre la décision, à voir ce que nous on voulait, ce qu'on voulait plus, et tout simplement nous a aidé dans notre couple à avancer. Et ça s'est traduit par une séparation. ça arrive. Ça nous a permis de nous exprimer et elle de retraduire ce dont on avait besoin et que l'autre soit à l'écoute et entende ce que chacun avait besoin avec les enfants. Moi, j'ai entendu en allant voir ce psychothérapeute que c'était très compliqué pour lui de se dire qu'il allait être séparé de ses enfants pendant une semaine. C'était très dur pour lui. C'est pas grave, on pose les choses, on voit nos emplois du temps, comment les enfants aussi, eux, ont un planning, un emploi du temps, et on essaie d'adapter pour que tout le monde y trouve son compte. Voilà. On avait décidé ensemble que tout ce qui était festif, c'est-à-dire anniversaire, Noël, on les fêterait ensemble. Ça, c'est des choses qu'on a posées pour pouvoir aussi le dire aux enfants, pour eux que ce soit pas un choc que, voilà, à Noël, maman n'est plus là, c'est comme ça, là, vous la verrez la semaine prochaine. Donc, on l'entendait pas comme ça.
Est-ce que par rapport à tout ce cadre voilà, que vous avez organisé, est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis ?
Oui, tout à fait. Alors, ça fait quand même 6 ans qu'on est séparés. Ce qu'on avait effectivement prévu au départ, c'était dans le cadre d'enfants qui étaient plus jeunes, déjà. Mmh. Et c'était dans le cadre où on se séparait, où chacun était célibataire, entre guillemets, n'avait pas rencontré quelqu'un ou n'était pas en famille recomposée. Donc, ça, pendant un certain temps, c'est resté comme ça, je dirais à peu près pendant 2 ans. Mmh. Où on a eu ce rythme, où on était, voilà, on faisait, les transferts se faisaient très bien, on faisait les fêtes ensemble, les anniversaires, etc. Et à un moment donné, bon, les enfants étaient plus grands, et aussi mon ex-conjoint a retrouvé quelqu'un, a refait sa vie. Et là, évidemment, le cadre change, c'est-à-dire c'est plus compliqué déjà de faire les fêtes ensemble, les anniversaires, avec une nouvelle conjointe qui arrive aussi avec son histoire, ses enfants, puisqu'elle en a 3. Voilà, de remettre le cadre et de le transposer avec une nouvelle famille à côté, c'est compliqué. Donc, effectivement, il a fallu évoluer et s'adapter, encore une fois, à cette nouvelle famille, et puis à l'envie des enfants aussi. Parce que vivre avec papa à 3 et vivre avec une nouvelle conjointe à 6 puis à 7, puisqu'il a eu un enfant à nouveau après, bah c'est pas du tout la même chose. Donc oui, il y a eu une évolution. Et je dirais aussi, il y a une évolution parce que mes enfants grandissent et puis que, à un moment donné, les premiers deviennent des ados et ils ont plus du tout les mêmes, on n'a plus les mêmes rapports, hein, ils ont plus les mêmes envies. Oui, ça a évolué. On a cessé d'être très proches comme on l'était au départ de notre séparation. C'est-à-dire, voilà, les fêtes, on a arrêté de les faire ensemble. Les fêtes sont faites d'un côté puis de l'autre. Comme dans une séparation classique, j'ai envie de dire, voilà, où l'un fait sa vie, l'autre fait sa vie.
Comment vous avez vécu voilà, toute cette adaptation nécessaire, alors vous dites à la fois aux enfants, mais du fait aussi de ce changement de situation du côté de votre ex-conjoint?
Alors, ça n'a pas été facile pour moi. C'est compliqué de se dire qu'il y a une personne qui arrive dans la vie de l'autre, déjà juste en tant que femme. Parce qu'on a vécu très longtemps avec cette personne et que, bon, bah voilà, il y a quelqu'un qui remplace, presque, hein, on peut se dire, bien qu'il n'y ait plus de sentiments. Je pense qu'il y a une part de, peut-être de jalousie qui dit, j'étais là avant. Mais bon, après ça, je l'ai géré, je l'ai pris et puis, bah, j'ai laissé le temps de m'adapter. Et la deuxième chose, c'était compliqué pour moi de me dire qu'il y avait une autre femme, une autre maman, entre guillemets, qui venait et qui interférait dans l'éducation de mes enfants et voilà, qui est très présente encore maintenant. Voilà, c'est une troisième personne adulte responsable qui vient, voilà, et qu'on ne connaît pas, parce que je la connais toujours pas. Après, j'en sais ce que les enfants me disent et je pense qu'elle est bienveillante. Il faut se dire qu'elle est bienveillante, parce que sinon c'est compliqué à gérer. Et ça a été compliqué. Je pense que le temps et la façon de réagir des enfants, ça m'a aidée à l'accepter. À me dire, oui, bon, c'est une maman, elle sait bien ce qu'elle fait, elle en a eu 3 aussi. Je dois lui laisser la responsabilité de mes enfants. Et ça se passe très bien.
Oui, j'entends qu'il y a eu tout un process, voilà, d'acceptation pour oui. vous, qui, j'entends, a été douloureux. Vous étiez très émue tout à l'heure en commençant à en parler. Mais voilà, que le temps vous a aidé oui. et puis que les enfants aussi vous ont aidé à accepter aussi cette situation. De par oui. leur retour, ce qu'ils pouvaient vous raconter, qui, j'entends, du coup, était rassurant pour vous.
Oui, c'était rassurant. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'au départ, j'avais l'impression qu'ils me protégeaient beaucoup. En ne me disant pas ce qui se passait, même si j'étais sans être intrusive, hein, mais comme tout parent, on a envie de savoir ce qui se passe dans la vie des enfants, y compris quand ils sont avec leur papa. Et en fait, j'avais pas vraiment de retour, sauf que ça allait bien. Ça va, t'inquiète pas maman. J'ai déjà entendu plusieurs fois, t'inquiète pas maman, tout va bien.
Vous parliez, Fabienne, des spécialistes, voilà, des aides extérieures que vous êtes allée chercher pour vous avant et puis pendant que les choses se faisaient avec votre ex-conjoint. Est-ce que vous avez également sollicité votre entourage ?
Mon entourage le plus proche, ce sont mes amis. On n'est pas très proches de notre famille et mon ex-conjoint et moi. Mais effectivement, oui, on a sollicité nos amis. Parce que je pense qu'il y a un besoin, aussi de parler, de se rassurer, de se dire qu'on fait les choses correctement. Moi, j'ai eu très peur de perdre des amis, par exemple, et par les choix que je faisais, parce que j'avais peur qu'on n'accepte pas. J'avais besoin de me rassurer et sur les gens qui m'entouraient et sur le fait que j'étais une bonne maman et que je faisais pas les choses n'importe comment et que voilà, je faisais les bons choix. Pour moi et ma famille.
C'est quelque chose qui a été important pour
vous. Oui, c'est compliqué de porter ça. La séparation, 3 enfants, ça s'est fait très progressivement, très lentement. Avant de prendre la décision, il nous a fallu plusieurs mois. Et il fallait aussi qu'on ait dans l'évolution le soutien de notre entourage.
Vous parliez tout à l'heure des peurs, et notamment de la peur de ne pas être une bonne maman. Est-ce qu'il y a eu d'autres peurs ou d'autres inquiétudes dans tout ce processus ?
La plus grande peur, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre avec le papa. Pas être d'accord sur comment... le déroulement, déjà, juste des gardes, des anniversaires, se mettre d'accord. Parce que on voyait les choses... dans l'entente, dans la communication. La psychothérapeute de couple nous avait dit, attention, ça peut aussi ça évoluer. Pour l'instant, vous êtes dans l'entente, il suffit peut-être d'avoir une tierce personne ou un changement de vie pour que ça change. Le fait de se dire, est-ce qu'on va réussir à être assez fort et ne pas être dans la colère pour se reprocher des choses et pas réussir à s'entendre. Ça a été une grosse inquiétude et du côté de mon ex-conjoint. Et de ma part.
Est-ce qu'il y a eu des moments où justement ça a été difficile de se mettre d'accord ?
Oui, il y a eu des moments où ça a été des périodes où ça a été compliqué. Parce que il y a eu une partie, un moment où j'ai un peu subi effectivement quand il s'est remis en couple, où il m'a imposé des modifications sans forcément me demander mon avis et essayer de trouver un compromis il m'a imposé des choses un peu abruptement et c'est seulement après qu'on en a discuté. Là, ça a été un peu compliqué.
Est-ce que ça vous a appris quelque chose, Fabienne, d'avoir traversé tout ça?
Ah oui, ça m'a appris beaucoup sur moi, sur ce que j'étais capable de supporter, sur ce que j'étais capable d'entendre, sur l'adaptation que j'ai finalement d'agir en fonction de personnes différentes. Parce que mes 3 enfants, souvent je dis je gère 5 plannings, le planning de chacun de mes enfants et de mon ex et du mien, parce qu'il faut s'adapter constamment. Et ça m'a appris sur mes enfants aussi, sur leur caractère, sur ce qu'ils étaient capables de faire, de ne pas faire, de mentir aussi. Ou de me porter, ils font très attention, beaucoup d'attention. Est-ce que c'est parce qu'ils sont comme ça ou est-ce que c'est parce que je suis seule ? C'est un grand sujet avec ma petite dernière, le fait d'être seule et d'être heureuse seule. Elle veut à tout prix me caser avec un nouvel amoureux parce qu'elle pense que pour moi, c'est mieux d'avoir de l'affection de quelqu'un, surtout quand ils ne sont pas là. parce que quand elle est pas là, maman est toute seule. Oui, j'ai appris plein de choses, et sur mes enfants, et sur moi, et sur mon ex aussi. Mais ça, jusqu'où il est capable d'aller, et le pardon, et etc. Comment ajuster une relation qui n'est plus une relation amoureuse, mais encore une relation qui existe, quoi.
Ok, merci Fabienne. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté, qu'on rejoigne notre experte Anne Juteau. Bonjour Anne Juteau, vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute d'enfants et d'adolescents. Vous pratiquez également la relaxation thérapeutique, vous exercez à Paris dans le 9e arrondissement. Vous recevez, Anne, beaucoup de parents qui viennent vous voir parce que justement, ils pensent à se séparer et ils se questionnent par rapport à leurs enfants. Fabienne vient de nous témoigner voilà, que c'est une sacrée épreuve. Tout d'abord, Anne, qu'est-ce que c'est se séparer pour les enfants ?
Bonjour. Bon, je vais commencer par séparer. Je voulais déjà remercier Fabienne qui nous a présenté une situation, je trouve, qui est... Bon, vraiment, vous avez été des parents très, très, très à l'écoute. Hein, et voilà, moi, j'avais en tête de conseiller un certain nombre de choses plus tard aux parents. Mais c'est vrai que vous avez été d'abord des parents qui s'adaptent aux enfants et qui essaie de se parler. Et malgré tout, vous n'avez pas voulu cacher que oui, c'est quand même une épreuve terrible. Bon, comme vous avez dit, c'est pas prévu au scénario au départ. Hein. On s'aime, on fait une belle famille, 3 enfants, grande famille. Et puis voilà. Bon, alors, se séparer, effectivement, nous, adultes, on sait ce que ça veut dire. Et vous avez très bien dit, votre grand, il a su aussi tout de suite. C'est quoi se séparer ? Les petits, ça veut rien dire du tout, c'est tout à fait abstrait. Se séparer, c'est, on est obligé pour des petits de leur dire avec des mots à eux. Alors, on va plus vivre ensemble, on va plus dormir ensemble. Enfin, bon, ça dépend à quel moment on l'annonce. C'est vraiment un mot abstrait d'adulte, et je pense que c'est vraiment ici. Important d'essayer de trouver des mots en fonction de l'âge. L'enfant, lui, il va plutôt avoir l'impression que c'est lui qu'on sépare en deux, quoi. C'est quand même une réelle épreuve, un déchirement. Il a 2 parents. Il dépend d'eux. Il est fabriqué par eux. Lui, il a tout à fait autre chose en tête dans la séparation. Maintenant, un grand, comme vous avez dit, à partir de 7, 8, 9 ans, il envisage tout de suite, il pense qu'il y aura peut-être 2 maisons, qu'il va peut-être perdre son école, qu'il va peut-être perdre ses copains. Enfin, lui, il voit tout de suite plein de conséquences. Et bon, les adolescents, voient encore, sans doute, se projettent encore peut-être plus loin.
Bon. Donc, voilà, cette représentation de ce que c'est que la séparation va varier en fonction de l'âge de l'enfant.
Il faut les aider à comprendre ce que ça veut dire, quoi. Pas rester sur le mot, on ne sait pas.
Comme Fabienne nous l'a raconté, voilà, ce temps de l'annonce est souvent un temps qui suscite beaucoup de questions de la part des parents, notamment qu'est-ce qu'on dit ? Alors là, vous disiez déjà l'importance de s'adapter à l'âge de l'enfant pour utiliser les mots de l'enfant pour qu'il puisse comprendre et se représenter les choses. Qu'est-ce qui peut être important pour le parent dans ce temps d'annonce ?
Je crois que, comme Fabienne, vous l'avez dit, vous avez pris le temps d'y réfléchir ensemble et vous êtes fait aider puisque c'était une période où vous étiez accompagnée, en fait. On sent que vous êtes vraiment posée. Et c'est pas facile. Alors, c'était peut-être plus facile parce qu'il y avait un tiers.
On a écrit des règles. Ouais. Des règles qu'on voulait s'imposer. Au départ, on a fait et lui et moi. Et après, on a fait une espèce de règle... Qu'on a mis en commun. Et d'ailleurs, c'était notre base pour aller voir l'avocat pour le divorce en disant, nous, notre optique, on voit les choses de cette manière-là. Et c'était quelque chose, vraiment un travail qu'on avait fait à deux, sans tiers. On avait déjà une base, on partait déjà de quelque chose de vraiment concret. Mmh. Voilà.
On sent que ça a été très présent dans votre démarche et effectivement, c'est capital d'arriver à se parler parce que dire on va se séparer, finalement, ça ouvre un vide énorme pour l'enfant. C'est comme si tout son monde s'écroulait et du coup, c'est important de pouvoir avoir quelque chose pour pas qu'il se sente tombé dans un trou tout vide, tout triste. Et du coup, bah, d'y avoir pensé avant parce que soit il va poser des questions, soit il en posera pas, mais on va bien voir qu'il va falloir le rassurer. Donc y avoir pensé avant, c'est vraiment un prérequis qui me semble tout à fait nécessaire. Et je suis surtout psychologue pour enfants, donc on vient souvent me voir en me disant bon qu'est-ce que je leur dis. Ils ont en tête qu'ils vont dire on n'est plus amoureux. Vous l'avez dit dans, oui, dans quelque dit, chose.
On leur a dit, on n'a pas parlé de, pour eux, je pense que c'était trop abstrait ce que c'est l'amour. Oui. Parce que pour eux, l'amour, c'est, ben, on les aime, eux. Oui. Alors, ça voulait dire que si nous, on ne s'aime plus, la question a été posée. Un de mes enfants, je ne sais plus lequel, m'a dit, bah, si tu n'aimes plus papa, est-ce que c'est possible qu'un jour tu ne m'aimes plus? On a des sentiments d'adultes qui nous attirent l'un et l'autre. Et ce sentiment qui nous attire, ben, il n'est plus là. Mais c'est pas le même amour que je te porte à toi. On l'a vraiment spécifié pour qu'il y ait pas d'amalgame, justement. Oui. Et malgré tout, on a quand même eu plusieurs fois la question sur l'amour, sur est-ce que un jour ça peut arriver que moi tu ne m'aimes plus.
De la perte de l'amour de ses parents, voilà. Je pense pour un enfant.
Et la dernière est toujours très très en demande de là-dessus. Elle me demande tous les jours, même des fois plusieurs fois par jour, si je l'aime et si ça sera toujours comme ça. Voilà, donc évidemment, je lui réponds que oui et que ça sera toujours comme ça. Et tous les jours, je lui réponds la même chose. Et on sent que voilà, ça l'apaise. Mm-hmm. Donc oui, là, on l'a dit, mais on n'a pas verbalisé de cette manière-là. Mm-hmm.
Alors effectivement, parce que cette question de l'amour, elle reste très importante, parce que bien sûr, l'enfant, si papa ou maman ne peuvent ne plus s'aimer, bien sûr, leur grande peur, c'est qu'on les aime plus eux, hein, qu'on puisse séparer d'eux aussi, hein, c'est-à-dire qu'ils voient plus son papa ou sa maman. Donc ça, c'est terrible. Cette question d'être amoureux ou pas, ça pose un autre problème, c'est que les couples ont pas pensé, dans la plupart des cas, la situation de séparation pareille, c'est-à-dire bien souvent, il y en a un qui est déjà projeté dans un autre projet, qui a peut-être déjà rencontré quelqu'un, ou en tous les cas, qui a, pour lui, voilà, il est passé à autre chose. Mais des fois, l'autre du couple, lui, il est complètement abasourdi, il n'a rien vu venir. Et lui, il peut être encore très amoureux, il peut avoir envie de sauver quelque chose de cette situation. En tous les cas, il n'a pas cheminé du tout sur l'idée de se séparer. Et du coup, effectivement, en général, là, il y a toujours un parent qui dit « Non, mais moi, je suis pas du tout d'accord, je vais pas dire qu'on n'est plus amoureux, moi, je suis amoureux. » Et donc, effectivement, il faut essayer de trouver des mots qui... C'est là que vous parliez de compromis. Je crois qu'effectivement, quand on se pose et qu'on parle ensemble, on essaie de trouver... C'est pas facile, surtout si c'est conflictuel. Mais dans ce cas-là, on fait bref, mais on trouve quelques mots. Et en général, les parents s'accordent sur le fait « papa et maman sont plus heureux ensemble ». Et ça, pour le coup, qu'ils soient encore amoureux, mais l'autre n'est plus amoureux, de toute façon, ils ne sont plus heureux. Hein, donc c'est vraiment où ils sont tristes ou en tout cas autour de être heureux malheureux, même un enfant petit, ça c'est quelque chose qui peut comprendre et qui peut entendre réellement.
En tout cas là, Anne, vous nous dites bien que ce décalage parfois de vécu entre les parents peut compliquer les choses dans ce qu'on va dire à l'enfant. Donc là, l'importance de la construction de ce compromis et puis dans ce que vous disiez, j'entends vraiment aussi l'importance de l'honnêteté aussi dans ce compromis, de pas inventer des histoires ou mentir à l'enfant, l'importance malgré tout de pas nier la réalité, d'en faire part à l'enfant et puis de manière authentique. Est-ce que justement que les parents puissent dire qu'ils sont pas impactés de la même manière, ou est-ce que ça c'est des choses qui concernent l'enfant?
Alors ça dépend vraiment de... Enfin, quand c'est conflictuel, je pense qu'il faut rester très bref et très factuel, parce que dès qu'on va commencer à parler plus sur l'émotionnel différent de papa ou de maman par rapport à la situation, ça va rester très compliqué de rester ensemble, posé
En tout cas, là, je pense à des parents qui sont venus me voir. L'un et l'autre étaient très affectés par cette situation, très tristes. Et ils s'interrogeaient justement sur est-ce qu'on doit dire qu'on est triste à nos enfants.
Je pense qu'effectivement, on peut leur dire qu'effectivement, on est triste. D'abord, on est triste parce que, effectivement, c'était une belle histoire qui va s'arrêter d'un point de vue, le couple de papa amoureux ensemble. Donc, oui, je pense qu'il faut pas nier, parce que les papas et les mamans, ils vont essayer autant que possible ne pas inonder leurs enfants d'émotions difficiles, et c'est très bien. Mais malgré tout, si un parent est extrêmement bouleversé et triste, il va pas être tout de suite très solide, même pas mal. Enfin non, c'est pas ça la vraie vie. Mmh. On peut être vrai sur les émotions. Mmh. Bon, on s'étend pas, on va pas pleurer. Voilà, le soir en prenant son bébé. Son enfant contre soi, si on peut l'éviter, c'est quand même mieux. Hein, on fait ce qu'on peut, je crois, parce que c'est difficile, oui. Et c'est d'autant plus difficile que c'est conflictuel et qu'il y en a un qui est vraiment très décidé et pour l'autre, c'est terrible, quoi.
Bien sûr. Dans les questions que se posent les parents, il y a aussi souvent quand, comment. Alors là, vous, Fabienne, vous nous disiez, vous avez fait un conseil de famille. Oui. En tout cas, vous avez réuni toute la famille. Oui. Anne, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que là aussi, hein, vous avez très très bien fait les choses. Oui, c'est quelque chose où c'est une famille. Et donc, les deux parents sont là. Ça me paraît vraiment quelque chose de tout à fait nécessaire. Quand c'est possible, c'est important, c'est plus rassurant pour les enfants. C'est-à-dire, les parents, ils peuvent encore se parler. Ils viennent de nous dire qu'ils vont se séparer, qu'ils sont plus amoureux. En général, ils ont dit aussi que « mais on va pas tout perdre ». Parce qu'ils vont rester nos parents pour toute la vie. Ils vont pas tomber de leur tête ni de leur cœur. Ça, on va le garder tout le temps.
Hein, donc ça, c'est important de le dire.
Oui, très important. Ils ont besoin d'être rassurés. Parce qu'eux, ils ont vraiment la peur qu'ils vont tout perdre. Hein. Donc, quand on peut être deux pour annoncer quelque chose comme ça, déjà, ça rassure un tout petit peu. Réellement, ils sont encore là ensemble et ils peuvent se parler. Et ça concerne vraiment la famille. Donc, ce conseil de famille, comme vous dites, ça me paraît une très bonne idée.
Fabienne nous a fait part des différentes réactions de ses enfants, alors en fonction de leur âge. Est-ce qu'il y a des spécificités dans ces réactions en fonction des âges des enfants ?
Oui, un petit peu. Vous l'avez dit, votre petite fille était petite, 2 ans. Alors oui, c'est vrai que bon. Moi, je dirais, il y a encore des plus petits, hein, des fois, c'est vraiment des bébés. Alors que vous disiez, à 2 ans, elle a effectivement pas exprimé grand-chose et bon, elle a peut-être pas tout compris, hein. Et c'est encore plus vrai pour des tout petits. Maintenant, des bébés, ils vont pas comprendre du tout ce que c'est. Même si on leur explique tout doucement, gentiment, ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas la pensée pour pouvoir comprendre ça. Par contre, ce qu'ils ont très fort en eux, c'est ils sont très très à l'écoute des émotions et ils sont très proches des ressentis émotionnels de leurs parents et des changements émotionnels de leurs parents. Donc, ils vont très vite comprendre qu'il y a quelque chose d'important qui se passe ou qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Ça, c'est des petites notions, évidemment. Eux, ils voient pas les conséquences, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Ça, oui. Mais par contre, ils ressentent qu'il y a un changement. Un changement, c'est pas rassurant. Bon, par exemple, si c'est un tout petit, que la maman, elle est encore ou quoi, c'est un bébé qui est quand même très fort contre sa maman souvent, ben ce bébé-là, oui, il sent bien que cette maman, elle n'est pas comme avant tout à fait. Même si elle essaie de tout faire, évidemment, pour le rassurer, pour pas l'envahir. Mais lui, il est très très à l'écoute parce que lui, il n'a pas encore les mots. Donc évidemment, il est...
En tout cas, même s'il n'a pas les mots, c'est très important que les parents mettent les mots.
Oui, voilà. C'est-à-dire un tout petit, voilà, on peut tout à fait s'approcher de lui et lui dire, ben voilà, papa et maman... Ils vont plus vivre ensemble. Voilà, on dit peu de choses, mais on lui dit quand même. Hein, c'est voilà, il peut entendre tout ça et un enfant a besoin, même tout petit bébé a besoin d'entendre des mots. Il entend le son, il entend la tonalité. Bon, votre grand, il est plus grand. C'est vrai que sur les émotions, pour des grands, c'est un petit peu plus compliqué. Mais des petits comme ça, alors...
2-3 ans, c'est aussi une période souvent d'opposition.
Oui, voilà, c'est...
Vous parliez de colère, oui. Où il y a des colères, des frustrations.
C'est la période du non, hein, qu'on...
Je l'ai bien, bien vécu,
d'affirmation de soi et d'individuation. Donc, puis c'est une période où les enfants sont quand même un peu tout puissants et ils veulent tout maîtriser. Donc, c'est quand même patatrac, quoi. On leur annonce quelque chose de terrible, alors qu'eux, ils ont, d'un point de vue psychique, ils ont quand même beaucoup de choses à mettre en place autour de la maîtrise, autour de... Donc, c'est compliqué. Ils peuvent s'opposer énormément.
Donc, une annonce à cet âge-là peut accentuer, finalement, ces mouvements d'opposition.
Ça peut compliquer un petit peu, par exemple, l'acquisition de la propreté, des choses comme ça, quand c'était un petit peu démarré ou retardé un petit peu. Ça peut aussi faire des enfants qui, au contraire, pour pouvoir tout maîtriser et pas se sentir comme un petit enfant tout fragile, tout nul et qui peut rien aux décisions de l'adulte, des décisions qu'ils font souffrir, ça peut être des enfants qui, au contraire, se mettent à parler très très vite, à être très prof tout de suite et à être des mini petits adultes, quoi.
Et ensuite, voilà, quand l'enfant est un peu plus grand, voilà, dans 3-5 ans, en tout cas avant l'entrée au primaire.
Alors, 3-5 ans, bon, c'est encore une autre période qui est assez mouvementée pour l'enfant, hein. C'est une période où on va parler beaucoup de pulsionnalité, d'émotionnel très très intense chez le petit. Il suffit d'aller dans une cour de récréation pour être tout à fait effrayé. Ils ont des jeux autour, ils se dévorent, ils se tuent. C'est vraiment très très exacerbé, assez agressif. Et puis aussi, ils jouent au papa et la maman, ils ont leurs premiers amoureux. Donc, ils s'éveillent aux choses comme ça, émotionnelles très très intenses. Et là encore, alors qu'eux, ils commencent à se dire « j'ai un amoureux, je joue au papa et maman », et qu'on leur dit « ben, papa et maman... eux, ils vont plus jouer au papa et à la maman ensemble, en tous les cas. Bah oui, c'est quand même très, très, très bousculant. Et puis, c'est une période, c'est la période de l'Œdipe. Pour certains enfants, c'est très marqué. On a en tête de très nombreuses petites filles qui, à cette période, disent ben moi, je vais me marier avec mon papa, ou de petits garçons qui veulent être le plus fort, le plus important pour leur maman, quoi. Hein, s'ils pouvaient essayer d'évincer un peu papa, ça serait super. Donc, oui, c'est une période quand même pas facile parce que. Par exemple, si on se met dans la peau de cette petite fille qui est très très proche de son papa, par exemple un papa extrêmement investi, qui est là tous les matins, qui l'emmène tous les jours à l'école et tout ça, et qui est très très en demande de son papa et qui, à ce moment-là, rejette déjà un petit peu la maman, si la séparation a lieu à ce moment-là, oui, ça va être compliqué pour cette petite fille. Surtout, par exemple, si c'est une garde où elle va pas voir très souvent son papa, ça peut être extrêmement violent pour elle. Elle va ressentir un vide terrible, elle va être en demande et elle risque d'être en grande rivalité avec la maman pour laquelle ça va pas être forcément très facile tous les jours de vivre avec une colère peut-être un peu plus exacerbée. Alors bon, pareil pour un petit garçon, hein. Oui, on peut prendre l'exemple d'un petit garçon qui à cette période-là, avec une maman qui serait très effondrée, avec un papa qui l'a quitté, et un petit garçon qui va être très très content d'aller consoler sa maman, et puis qui va essayer de venir tous les soirs un petit peu pour consoler sa maman. Et puis finalement, la maman, elle va être très contente aussi, parce qu'elle est réellement triste, la maman. Hein. Donc, c'est des situations fréquentes, mais c'est pas facile, parce que finalement, d'aller consoler maman, c'est pas son rôle. Et puis, dans le lit de la maman, c'est pas sa place. Et puis, finalement, alors ça peut être transitoire. Faut pas jouer au grand yaka. Hein. On fait ce qu'on peut. On est malheureux. Mais réellement, ça lui fait pas forcément de bien. Et si la maman, elle refait sa vie après, il va avoir un autre homme dans ce lit-là. Et là, ça va être terrible pour lui. Parce qu'il va se sentir encore plus chassé, en quelque sorte. Hein. Et il va se sentir vraiment comme un petit garçon tout nul qui sert à rien aux parents.
Comme nous disait Fabienne, donc vous, votre deuxième avait 7 ans. Donc on dit souvent 7 ans, c'est l'âge de raison. En tout cas, vous nous disiez déjà, Anne, c'est un moment où l'enfant a une meilleure compréhension de ce que se séparer veut dire et puis des conséquences, des implications que ça amène.
Oui, alors effectivement, il est plus grand, il comprend mieux, et puis en plus, il est beaucoup moins autocentré. On a vu tout à l'heure l'enfant en pleine Oedipe, il est complètement autocentré sur lui-même, tout puissant et dans quelque chose de dans la pensée magique. Voilà, tout ce que je pense, ça va se produire. D'ailleurs, pour lui, ça peut être très compliqué parce que il peut aussi s'imaginer que c'est lui qui a souhaité la séparation. Hein, donc, ça peut être compliqué. Mais donc, celui de 7 ans, 6-7 ans, là, pour le coup, il est sorti un peu de ça. Il peut être beaucoup plus empathique avec ce que ressent son parent. Voilà, il est à l'écoute, donc c'est peut-être aussi le moment où il faut être un petit peu attentif au fait qu'il va vouloir beaucoup protéger, effectivement, son parent. Bah, c'est plutôt gentil, et le parent, effectivement, il en a un petit peu besoin. Bon, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, un petit peu, c'est bien pour tout le monde, mais bon, il faut rester en place de parent, ce que vous avez très très bien fait, Fabienne. Maintenant, assez souvent, dans des âges du primaire comme ça, les enfants ne vont pas forcément exprimer beaucoup. Autant avant, ils pouvaient être en colère, ils posent beaucoup de questions, pourquoi, mais là, non. Là, ils sont passés dans quelque chose qui est beaucoup plus autour de la pensée, mais c'est des pensées difficiles, compliquées, ils ne savent pas trop quoi en faire tout seul. Et bien souvent, on arrive avec des petits problèmes de somatisation, ou bon, ça peut être effectivement des cauchemars, ça peut être des maux de ventre. Ou des migraines qui peuvent s'installer, ou des petits bobos un peu à répétition, des petites choses qui... Bon, parce qu'il a affaire avec des pensées trop compliquées, il est un peu détaché de ses pensées, c'est le corps qui parle à sa place. Et effectivement, des parents attentifs, comme vous l'avez été, peuvent se rendre compte. Je pense qu'il faut vraiment être attentif aux changements, aux petites choses un petit peu... qui vous semble un petit peu étrange.
Oui, être attentif au changement dans un sens ou dans l'autre.
Tout voilà. À fait.
Souvent,
à fait.
Les parents sont attentifs à ce qui est bruyant, ce qui se voit, ce qui est désagréable. Oui. Mais l'enfant qui devient tout sage, qui du jour au lendemain range sa chambre, celui-là, on est peut-être moins attentif, alors que là aussi, ça doit alerter le parent.
Oui, peut-être même plus, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, un enfant, c'est pas très agréable pour les parents. Un enfant qui râle, qui crie, qui dit qu'il n'est pas content, qui est en colère. Bien sûr, c'est pas très agréable. Mais finalement, ça sort de lui. Alors qu'un enfant trop sage, qui garde tout et c'est comme si ça ne lui avait rien fait, effectivement. Bien sûr, celui-là, en plus, quand on est débordé, qu'on essaie de faire tout, comme vous disiez, c'est compliqué l'organisation. C'est quand même super d'avoir un enfant tranquille qui n'a pas l'air de râler, honnêtement. Hein. C'est vrai, on le souhaite. Mais quelque part, c'est important d'être attentif à s'il est devenu bien plus calme qu'il était, s'il se plaint jamais, quoi, s'il a l'air d'être vraiment tellement arrangeant, trop arrangeant. Je crois qu'il faut être attentif au trop.
Je m'appelle Léa, j'ai 12 ans, et depuis la rentrée, je mène une double vie.
Tous ceux dont les parents sont séparés, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît ?
Les miens, monsieur, ils sont divorcés, mais ils se sont remis ensemble.
Dans ce cas, une seule fiche devrait suffire.
Je vais quand même en prendre deux, parce qu'à mon avis, ça va pas durer leur histoire.
Fabienne, vous nous avez raconté qu'avec votre ex-conjoint, vous aviez organisé le mode de garde avant de l'annoncer aux enfants pour pouvoir répondre à leurs questions. Alors cette question du mode de garde, c'est souvent une question qui est assez controversée, qui est sujette à plein de tergiversations. Déjà, vous nous avez dit plusieurs fois, Anne, chaque famille fait aussi comme elle peut, en fonction aussi de ce qui est possible d'un point de vue matériel, financier aussi, parfois. Vous, Fabienne, vous disiez que comme votre dernière était très petite, vous avez essayé de limiter en tout cas les temps de séparation avec vous et avec son père. Souvent, il est dit, Anne, que la garde partagée n'est pas toujours recommandée justement pour les enfants petits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors effectivement, il y a de nombreux pédopsychiatres qui se mettent d'accord pour que, avant 3 ans, c'est pas facile, c'est pas très recommandé. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, je crois qu'on fait ce qu'on peut. C'est important d'avoir un petit peu en tête pourquoi les pédopsychiatres disent ça. C'est qu'effectivement, quand un enfant est tout petit, encore plus quand il est bébé, moins d'un an, on va dire, il naît avec plein de possibilités, mais finalement, toutes ces possibilités, elles sont pas encore construites. Hein, la pensée n'est pas encore installée. Il y a toutes les petites choses qui sont là, qui sont pré-construites, si on peut dire, mais qui ne sont pas vraiment installées. Et du coup, c'est dans un environnement, qu'il connaît, qui va être répétitif, où il n'y a pas beaucoup de changements, que toutes ces petites choses vont se construire et qu'il va pouvoir se construire une sécurité intérieure. Une sécurité de base en général qu'il construit avec le parent qui est le plus présent dans ses premières semaines, ses premiers mois.
C'est la construction de l'attachement.
Voilà, c'est la construction de l'attachement. Et effectivement, pour faire un attachement sécure, ça va permettre que l'enfant, après, il va pouvoir se séparer de son parent tranquillement, sereinement, parce qu'il aura gardé en lui des traces de quelque chose qu'il va retrouver, qu'il va pouvoir, et même quand il n'est pas avec, il va pouvoir penser à ce parent, ou en tous les cas au bon moment. Donc il aura construit quelque chose qui va l'aider, qu'il pourra retrouver. Il y a une période où il est très petit, où c'est un petit peu plus compliqué pour lui, et que c'est vraiment important, là pour le coup, de le contenir beaucoup par les gestes, par contre soi. Pour qu'il n'ait pas l'impression de s'effondrer.
Quels sont les autres modes de garde que vous pouvez observer dans ce que les parents peuvent faire ou proposer ?
La garde partagée est quand même assez souvent demandée parce que finalement, les deux parents aiment beaucoup leurs enfants et que réellement c'est un déchirement de se dire qu'on va pas vivre tout le temps avec. Et je crois qu'effectivement, quand on décide de se séparer, mais on n'a pas toujours réfléchi à tout. Enfin, on y a réfléchi, évidemment, on le sait, mais là, on va le vivre, quoi. Il va falloir qu'on se passe d'eux. C'est pas rien.
C'est pas rien pour l'enfant et pour le parent
aussi. Pendant longtemps, c'est les mamans qui avaient la garde un peu principale et les papas voyaient l'enfant un week-end sur deux, un jour dans la semaine. C'est pas forcément satisfaisant pour l'enfant qui aimerait peut-être voir plus souvent son papa ou en tous les cas qui aurait besoin. Il y a aussi, d'un point de vue matériel, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut deux maisons. Alors, il y a des solutions que les parents essaient de trouver quand effectivement, ils ont peur de trop faire souffrir leurs enfants. Il y a des parents qui essaient de garder l'appartement familial et d'avoir chacun un studio ou un appartement. Mais alors là, financièrement, c'est trois appartements qu'il faut envisager. Et puis au final, c'est pas si simple que ça parce que en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Donc au début, comme vous dites, au début, c'est pas mal de garder avec le moins de changements possible parce que là, vos enfants ont l'air d'avoir plutôt s'en être très bien sortis. Mais du coup, parce que vous avez vraiment essayé de contenir tout ça au niveau des changements, qu'il y ait le moins de changements possible. La chose à penser, c'est quand même, d'abord, qu'est-ce qui est possible matériellement ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir vivre loin ou pas, ou près ? Enfin, ça, c'est quand même déjà la chose la plus importante. C'est si on fait une garde partagée ou pas, mais de toute façon, pour qu'ils puissent voir ses deux parents, il ne va pas falloir habiter très loin. C'est quand même, ça me semble quand même assez important. Et quand même, on va d'abord écouter ce que ça fait à l'enfant.
En tout cas, Anne, dans tout ce que vous nous avez dit, et puis Fabienne, dans tout ce que vous avez fait et mis en place pour accompagner vos enfants, vous avez vraiment l'une et l'autre souligné l'importance de la réassurance. Alors j'ai entendu à la fois du côté du parent, que le parent se sente réassuré lui aussi pour pouvoir rassurer son enfant.
On l'a dit, une période pas facile et que des fois, je pense que faut pas... On est un adulte, on est un parent. Faut pas avoir honte d'avoir besoin de se faire aider. Quand c'est trop difficile, c'est important peut-être. C'est pas obligatoire du tout. Mais ça peut être important de se faire aider quelques séances, pour que ça sorte. Ou même des fois, justement, qu'on veut tellement protéger ses enfants que la colère peut pas sortir. Et du coup, c'est peut-être important qu'elle sorte ailleurs. On peut aussi avoir des amis. Si on est vraiment... peut-être très 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 effondré, ça vaut peut-être la peine effectivement de trouver de l'aide un petit peu ailleurs.
À la danse par exemple.
Oui, voilà.
C'était vraiment un exutoire.
Oui, voilà, pour que ça sorte.
Ouais.
Donc de faire aussi des choses pour soi.
Tout à fait.
Anne, vous nous disiez l'importance hein, pour les parents de la communication, voilà, de, par rapport aussi à la question du mode de garde, je crois, l'importance aussi de favoriser la présence de chacun des parents dans la vie de l'enfant. Vous l'avez un peu dit, Fabienne, voilà, que vous n'êtes plus un couple conjugal, mais vous restez un couple parental et vous restez des parents. Donc voilà, comment aussi chacun va continuer d'avoir pleinement sa place dans la vie de l'enfant.
Un enfant, pour s'y retrouver, il va avoir besoin de repères quand même, savoir à quoi s'en tenir et savoir où il va demain. Des choses un peu concrètes. Carrées, concrètes, pour quand même qu'il se sente tenu. Hein. Donc ça, c'est sûr. Ça va être important d'avoir un peu de souplesse parce que, par exemple, comme tout à l'heure, je prenais le cas d'un papa où c'est assez souvent les papas qui emmènent à l'école le matin et la maman qui rentre un peu plus tôt le soir. Ça arrive de temps en temps quand le couple est ensemble. Et du coup, peut-être qu'on peut s'arranger si on n'habite pas loin pour maintenir un petit peu des choses comme ça au début, quand c'est possible. Ça dépend vraiment de l'entente du couple. Quand c'est conflictuel, les compromis vont être quand même très compliqués. Mais voilà, si on peut, c'est vrai que des choses comme ça, c'est rassurant pour l'enfant. Par exemple, quand c'est pas son week-end, mais qu'il y a un anniversaire qui est très très important de prévu et que en fait c'est plus près de chez maman, quand même peut-être qu'on peut s'arranger pour modifier le week-end ou modifier quelque chose pour surtout pas priver l'enfant de cet anniversaire-là. C'est là que c'est important de se dire, on pense quand même pour l'enfant. Après, c'est l'adulte, c'est le parent qui lui va décider si c'est possible matériellement, si c'est ou même pour lui s'il trouve que non c'est n'importe quoi, c'est lui l'adulte qui aura la dernière décision, mais il faut quand même se mettre à sa place quoi. Il y a des choses pour lui qui vont être essentielles.
L'importance d'être là pour tous les temps forts de la vie de l'enfant, là je pense aussi aux situations où si l'enfant se retrouve hospitalisé ou si l'école appelle parce que l'enfant est malade, on n'est pas parent à mi-temps quoi. Si c'est pas son jour de garde, qu'on y va quand même.
Oui, je crois que c'est très important de le rappeler. On peut être en garde partagée, mais on est parent à temps plein toute la vie. Et ça paraît terrible de le rappeler, mais je crois que ça arrive assez souvent, effectivement. Quand il y a eu un problème, un accident, que sais-je, où un parent ne peut pas venir récupérer un enfant, tant pis, c'est pas ma semaine. Donc ça, je crois que ça, c'est pas possible pour un enfant. On a beau avoir essayé de le rassurer par les mots en disant qu'on sera son parent pour toute la vie et qu'on sera là quand il aura besoin, je crois que c'est dans les actes. Effectivement, c'est dans les actes qu'on va réellement le rassurer. C'est pas sa semaine, il a été hospitalisé ou il a eu un petit bobo, une petite maladie. On vient pas forcément, mais on prend des nouvelles. Ça reste son enfant. Même si c'est pas sa semaine, je pense que c'est... Pas l'oublier.
Fabienne, vous nous disiez que vous, votre ex-conjoint, a refait sa vie et que du coup, ça a modifié toute l'organisation que vous aviez mise en place, notamment par rapport à tous ces temps de vie de famille que vous aviez préservés autour des fêtes, des anniversaires, etc. Anne, comment, il faut le dire, comment souvent les choses se passent autour de cette question d'un des parents qui refait sa vie et l'impact que ça a pour les enfants?
Alors, vous l'avez souligné, Fabienne, c'est pas un moment facile, c'est un moment redouté même, souvent. Et bien souvent, ça implique des situations de secret pour l'enfant. Je crois réellement, même si c'est pas facile pour celui aussi qui a refait sa vie, il a pas tellement envie d'aller raconter son intimité à son ex-conjoint, on va pas lui demander de raconter son intimité du tout. Bien au contraire, ce serait terrible. C'est important qu'il puisse dire, j'ai rencontré quelqu'un et les enfants vont être amenés à le voir.
C'est important que l'un des parents qui a rencontré quelqu'un en informe l'autre parent.
Oui, parce que bien souvent, le parent l'apprend par les enfants qui ont rencontré quelqu'un un week-end ou un... Et d'ailleurs, ils savent pas bien, mais il y avait une dame ou il y avait un monsieur ou on leur a rien dit au final. Je crois que réellement, ça c'est une situation... Il faut pas se précipiter du tout pour en parler. Il faut être sûr quand même, parce que c'est pas rassurant du tout pour un enfant de voir que finalement, papa ou maman va rencontrer plein de personnes différentes. Ça veut dire que quand même, peut-être, l'amour, ça peut changer beaucoup. Et est-ce que papa, maman va pouvoir changer aussi d'enfant, en quelque sorte? C'est-à-dire, va pas m'oublier dans cette histoire-là. Donc, je crois qu'on leur présente pas trop de personnes, ou en tous les cas, quand on leur présente une personne, c'est quelqu'un dont on se dit que bah voilà, c'est quelqu'un qui va être important, qui va rester là de façon durable.
Oui, et puis je crois cette idée aussi de l'importance de ne pas mettre l'enfant dans un conflit de loyauté.
Non.
Voilà, que ça soit autour de la recomposition familiale, mais aussi dans le conflit peut-être du couple conjugal, voilà, au moment de la séparation, voilà, ce qui peut être un peu compliqué, évidemment extrêmement compliqué pour l'enfant à vivre et à gérer.
C'est très très lourd, c'est des soucis qui prennent beaucoup de place dans la tête d'un enfant et qui peuvent l'empêcher très nettement de se concentrer.
Ce sur quoi il doit se concentrer, les apprentissages, etc. Alors déjà au niveau pratique, Fabienne nous a donné plein d'exemples. Vous, Anne, vous nous avez donné certains conseils, notamment au niveau logistique, l'importance d'habiter proche pour que aussi ça soit plus facile pour les enfants qui transportent parfois leurs affaires, leurs sacs. Que c'est eux qui font tous ces trajets-là. Quels peuvent être les autres conseils ? On a parlé de la maison. Là, je pense à peut-être des choses pour aider l'enfant à se repérer dans le temps.
Oui, alors, je pense que vraiment, c'est rassurant pour l'enfant. Il y a des semainiers qui existent dans le commerce. Je ne suis pas là pour faire de la pub. Mais
personnalisé sur Internet.
Voilà, il y a des choses qui existent comme ça dans les boutiques d'enfants ou effectivement sur Internet.
Wikili, je crois, c'est un site où on peut personnaliser justement le calendrier de l'enfant.
Oui, tout à fait. Où on peut vraiment mettre, à la limite, la tête d'un papa qui ressemble à peu près à papa. Enfin, il y a des choses très personnalisables. Bon, voilà. On n'est pas obligé d'être aussi créatif. Les gommettes ou les couleurs, ça va très très bien, mais c'est important. C'est vraiment du concret qui va aider l'enfant à tenir.
Autre chose qui peut aider les enfants, c'est les livres. Voilà. Il existe, j'imagine, plein d'histoires autour de la séparation des parents. Est-ce que peut-être vous avez acheté des livres, des histoires pour les enfants ?
Oui, on m'en a prêté aussi, parce que malheureusement, je ne suis pas la seule dans le cas à m'être séparée. Surtout pour la petite, en fait, parce que ce n'est pas facile de s'adapter aux petits. Leur dire, justement, comme vous disiez, s'adapter au langage du petit et lui dire. Un livre, par exemple, qui s'appelle « Le démariage », où les enfants construisent un tunnel pour aller chez leur papa, chez leur maman. Voilà, c'est très bien fait. Et on ne parle pas forcément de divorce, parce qu'il y a aussi cette histoire de divorce, l'acte qui fait qu'on est plus ensemble, mais on est encore mariés. Alors ça, ça pose beaucoup de questions aussi à l'enfant. Le démariage, on est démarié, ça marchait bien.
des mots d'enfant, en plus.
Des livres surtout sur l'amour, que c'est pas parce qu'on est séparés que papa aime moins ou aime différemment, ou maman aussi. Ouais, c'est important. Je trouve qu'on passe beaucoup de choses par les livres et puis on peut en discuter aussi après. Y a peut-être des questions qui viennent de par les lectures qui ne viendraient pas de manière spontanée, naturelle. Donc c'est bien, ça permet aussi de discuter sur d'autres axes.
Vous nous avez parlé, Fabienne, du fait que votre deuxième a eu besoin de parler et aller consulter un psychologue, votre aîné, un sophrologue. En tout cas, là, vous avez vraiment souligné dans cette question de l'accompagnement, finalement, des besoins différents en fonction des enfants. Voilà, aussi de pouvoir s'adapter dans ce qu'on peut leur proposer à leurs besoins singuliers.
C'est important, effectivement, de le proposer, cette possibilité. Si un jour il a besoin, il pourra le demander, en fait.
Donc ça peut évoluer dans le temps.
Oui.
Souvent, je recommande des lectures à mes patients. Fabienne, est-ce que vous avez lu ou est-ce que vous avez un conseil à donner aux parents qui nous écoutent ?
Moi, je dirais, alors j'ai pas de lecture parce que je suis très mauvaise pour retenir les noms. Mais ce que je conseille aux parents, c'est comme nous le disait tout à l'heure madame, c'est de dire la vérité aux enfants. Parce que on se fait avoir, on se fait piéger de toute façon. Être vrai et adapter son discours au fur et à mesure. Et voilà, être dans la communication avec l'enfant et pas leur mentir, quoi.
Ok. Et vous, Anne ?
Alors, dans les livres, ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'effectivement, avec des petits notamment, c'est vraiment un moment important quand on leur lit une histoire. Et il y a beaucoup de livres, en fait, quand même, pour les petits, sur le sujet de la séparation, d'avoir plusieurs maisons. Bon, quand ils sont tout petits, moi, j'aime bien quand c'est des animaux. Bon, ça décale un petit peu et finalement, c'est quelque chose qui leur plaît énormément. Par exemple, un livre qui s'appelle « Les deux maisons du petit blaireau ». C'est mignon. En fait, ça pose vraiment tous les problèmes. Ça ouvre effectivement des questionnements. Mais finalement, c'est décalé. Du coup, ça peut ouvrir plus. L'enfant peut en parler plus facilement. Il y a d'autres, chez papa et chez maman, mes deux maisons. Enfin, bon, qui est plus classique, mais voilà. Et puis, pour les un peu plus grands, bah, toute la série des Max et Lily reste quand même, je trouve, quelque chose qu'ils aiment bien même lire, eux, tout seuls. Et à la fin, il y a toujours des questions. Donc, il y en a un sur les parents de Zoé divorcent. Et puis, il y en a un sur, je crois, c'est Simon à deux maisons, quelque chose comme ça. Bon, ça reste quelque chose de... Voilà. Bon, c'est pas... C'est important, les livres. Et sinon, bah, pour les conseils, je crois qu'effectivement, c'est s'adapter. La vie change, du coup, s'adapter à la vie, des événements importants pour l'enfant et d'être présent pour le rassurer. Vous avez parlé de Noël et des anniversaires. Oui, c'est les événements phares pour les enfants. Mais quand c'est conflictuel, c'est pas toujours possible. Là, vous avez dit quand on se... Ça revient à une nouvelle famille, enfin, recomposée, ça commence aussi à être compliqué. Moi, je crois que vraiment, ce qu'il faut pas oublier, c'est les petits événements du quotidien, mais qui sont si importants pour les enfants. Les kermesses, les spectacles de fin d'année. Et là, au final, on peut peut-être être deux parce que il y a des tiers, quoi. Il y a d'autres mondes, il y a d'autres parents. On n'est pas obligé de se parler beaucoup, même pas de se parler du tout si on veut. Mais on est là pour lui.
Merci beaucoup, Fabienne, d'être venue témoigner de votre vécu et de celui de vos enfants suite à votre séparation. Merci beaucoup, Anne Juteau, d'avoir partagé avec nous votre expérience et vos conseils. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute d'enfants et d'adolescents à Paris, dans le 9e arrondissement. Merci à toutes les deux.
Merci.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter. Et on se retrouve dans un prochain épisode.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.